Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes et nous allons regarder ensemble le psaume 54. Psaume 54. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, « David n'est-il pas caché parmi nous ?»« Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. »« Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. » Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Dans le psaume 53, où David donne un portrait du méchant, de l'impie, David exprime sa compassion pour ceux qui sont insensés, dépravés, qui vivent comme si Dieu n'existait pas, et qui sont violents envers ceux qui craignent Dieu. Dans ce psaume 54, David retourne vers ce thème des méchants, incrédules, mais la difficulté maintenant, c'est qu'il doit vivre parmi ces incrédules, parmi ces méchants, et cela cause beaucoup de problèmes. Par exemple, au verset 5, il dit « Des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. » Et les méchants, les incrédules, se sont levés. Ils en veulent à la vie de David. Et contrairement au psaume 53, où David se réjouit de la délivrance future, psaume 53, verset 7, par exemple, « Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple ? Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. » David attendait ce jour de délivrance, mais ici, dans ce psaume 54, David crie à Dieu en lui disant qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de délivrance maintenant. Pas dans l'avenir, mais maintenant. Délivre-moi, Seigneur. Si on voulait une version plus moderne, on dirait « sinon je suis dans le pétrin ». David demande de l'aide, il a besoin d'aide maintenant. Et il se tourne vers Dieu comme son seul secours, comme il le dit au verset 6. « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. » L'introduction de ce psaume nous dit que David a écrit ce psaume, verset 2, « Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous ?» Et cette introduction place ce psaume dans la période de la vie de David où il fuyait devant le roi Saül. En fait, tous les psaumes de David qui sont dans ce deuxième livre des psaumes qui vont du psaume 42 au psaume 72, tous ceux qui ont été écrits par David dans ces psaumes ont été écrits pendant des périodes de difficulté, des périodes de stress. Et c'est pour la raison pour laquelle ces psaumes sont tellement précieux pour les croyants, même aujourd'hui. Ils sont un guide pour notre foi quand nous traversons des moments difficiles. Le psaume 52 que nous avons vu la semaine dernière est une introduction à cette période dans la vie de David. Ce psaume 52, rappelez-vous, a été écrit quand Doeg, l'Édomite, vint faire un rapport à Saül en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Achimélech ». C'était un événement tragique. Quand ce méchant serviteur de Saül a tué tous les sacrificateurs et même tous les êtres vivants, les habitants, mais aussi les animaux de la ville de Nob. Psaume 53 a peut-être été écrit à la suite de la rencontre de David avec Nabal, l'insensé, qui a abusé de David, qui a refusé avec mépris de lui donner de l'aide quand il en avait besoin. On lit cela en 1 Samuel 25. Le psaume 54 a été écrit dans une heure qui est encore plus sombre. David a quitté son lieu de refuge, la caverne d'Adullam, où il jouissait d'une certaine sécurité. Et il a appris que la ville voisine de Keila était attaquée par les Philistins. Et David a consulté l'Éternel. Il lui a demandé, mais est-ce que je dois risquer ma vie pour ces gens? Est-ce que je dois quitter ce lieu de sécurité, cette caverne, pour aller combattre les Philistins? Et Dieu lui répond en 1 Samuel 23, verset 2, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keila. » Et c'est ce qui s'est passé. Mais après la victoire, David a appris que les hommes de Keila avaient l'intention de le trahir et de le remettre entre les mains du roi Saül. Et cela n'a laissé à David que peu de choix. Il s'est enfui vers le sud, vers le désert de Ziph. Et en 1 Samuel 23, verset 14, on lit que Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. On peut imaginer, je pense, à quel point David était fatigué, à la fois dans son corps, mais aussi dans son esprit. Il était pourchassé. Il avait souvent faim. Il portait le poids d'être le responsable de tous ceux qui le suivaient. Il devait pourvoir aux besoins d'une centaine d'hommes et de leur famille, de tous ceux qui étaient avec lui. David est poursuivi injustement. Et on peut très bien imaginez que David n'est pas très loin du point de rupture, du burn-out, comme on dit en français aujourd'hui. Et on peut alors voir le coup de massue que David a reçu dans cette période de sa vie quand il apprend que les Ziphiens ont fait ce que les habitants de Keila voulaient faire. Ils ont trahi David en apportant des informations essentielles au roi Saül. Toute la région s'était levée contre David pour le livrer entre les mains de son persécuteur. Et cette trahison était particulièrement cruelle, parce que non seulement David n'avait fait aucun mal contre les Ziphiens, ni contre Saül d'ailleurs, mais ces gens étaient des membres de sa propre tribu, de la tribu de Juda. Et les voilà qu'ils le trahissent, qu'ils veulent le remettre entre les mains du roi Saül. Et ce psaume 54 est la prière de David pendant ou après cette épreuve terrible. David devait faire face à un danger constant. Il semblait qu'il n'y avait personne en qui il pouvait avoir confiance, mais David savait qu'il y a toujours quelqu'un dans lequel on peut avoir confiance. Il y a toujours le Seigneur vers lequel il peut se tourner et qui apportera son aide. Et dans ce sens, le psaume 54 est pour tous ceux qui se sentent désespérés, abandonnés, ou qui ont été trahis même par quelqu'un de proche. David nous montre l'exemple de porter tout ce qui est sur notre cœur, de le porter à Dieu et de nous reposer sur lui. Les psaumes en général, mais en particulier les psaumes de David, où David crie à Dieu, sont d'une très grande valeur pour les croyants de tous les temps. Ce sont des exemples, des guides pour nous aider dans notre vie de prière. Comment amenons-nous nos problèmes à Dieu? Le psaume 54 présente 5 caractéristiques de la façon dont David prie le Seigneur dans ce moment de difficulté, dans ce désespoir. Et les caractéristiques de cette prière sont importantes pour nous quand nous venons auprès de Dieu. La première caractéristique, c'est que la prière de David présente notre relation avec Dieu. C'est ce que David dit au verset 3. Il présente de façon délibérée la base de notre relation avec Dieu. Il dit, « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. » Faire référence au nom de Dieu, cela veut dire invoquer la gloire de qui est Dieu, de tout ce qu'il représente. Alors que les habitants de Keïla, les Ziphiens, ont acquis une réputation de manque de fiabilité, ils n'étaient pas fiables, on ne pouvait pas leur faire confiance. David peut se tourner vers Dieu, parce que Dieu a aussi une réputation bien méritée, la réputation d'un Dieu qui est fidèle, qui sauve ceux qu'il invoque. Un commentateur écrit « La raison de la confiance de David réside dans sa foi, dans la révélation que Dieu a faite de lui-même dans le passé. » Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand un croyant se tourne vers la parole de Dieu, il découvre Dieu comme le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu plein de compassion. Il voit ce que Dieu a fait dans le passé. Il voit toutes les fois où Dieu a délivré son peuple. Il voit aussi tout ce que Dieu a promis de faire dans le futur. Et en voyant cela, le croyant est encouragé à se tourner encore plus vers Dieu dans les moments difficiles à cause de son nom, de tout ce que Dieu est. À l'époque de la Bible, on ne donnait pas les noms comme on donne les noms aujourd'hui. On donne des noms soit par envie ou pour souligner des liens de parenté. Dans l'Ancien Testament, on donnait des noms pour dire quelque chose d'important au sujet soit de la personne, soit du lieu. Et dans ce psaume, David suit la progression de trois noms. Verset 3, il s'écrit « Ô Dieu !» Et c'est le terme hébreu « Elohim » qui exprime souvent la divinité, la déité de Dieu en tant que créateur de toutes choses. C'est de cette façon que Dieu se rapporte à toute chose, à tout le monde, à toute créature. Il est le Créateur. Au verset 6, David s'écrit « Le Seigneur est le soutien de mon âme ». Et c'est le nom hébreu Adonai qui fait appel au fait que Dieu est celui qui règne sur toute chose. Il est le souverain, il contrôle absolument toute chose. Et c'est au verset 8 que David obtient le nom le plus intime, le nom qui pour lui est le plus pertinent. Il dit « Je louerai ton nom, ô Éternel ». Ce nom éternel traduit le nom Yahvé, c'est le nom personnel, c'est le nom de l'Alliance, c'est le nom que Dieu n'a donné qu'à son peuple, c'est ce nom que Dieu a révélé à Moïse dans le buisson ardent. Il lui a donné la signification de ce nom. Il lui a dit « Je suis celui qui suis ». Certaines versions disent « Je suis celui qui est ». La signification de ce nom vient d'une racine du verbe « être ».« Je suis celui qui suis ». Et ce nom fait référence au caractère éternel de Dieu. Ce caractère d'auto-existence, d'autosuffisance. Il n'a besoin de personne. Et c'est ce genre de sauveur dont David a besoin dans sa situation désespérée. En utilisant ce nom éternel, David invoque aussi Dieu dans le cadre de son alliance avec son peuple. C'est ce nom du Dieu de l'alliance. David fait partie du peuple de l'alliance. L'alliance était ce lien entre Dieu et son peuple dans lequel il appelait le peuple à le suivre, et où il s'engageait à être le sauveur fidèle de son peuple et autant marqué. Cette alliance a été accomplie quand Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'alliance, le sauveur que Dieu avait promis pour son peuple. Et quand David invoque Dieu en l'appelant par son nom de l'alliance, nous faisons la même chose quand nous invoquons Dieu par Jésus-Christ. Christ a sécurisé le droit pour tous les croyants d'être acceptés par Dieu lorsque nous nous présentons devant lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul nous dit que les croyants ont accès au Père par le Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 2, verset 18. Et voici le point important que David fait ici. Ça fait une énorme différence, en particulier dans les moments difficiles, de savoir ce qui donne le droit à quelqu'un de se tourner vers Dieu dans la prière, mais en plus, que nous avons le droit de nous tourner vers Dieu dans la prière. Non seulement de savoir ce qui nous donne le droit de nous tourner vers Dieu dans la prière, mais de savoir aussi que nous avons le droit de nous tourner vers Dieu dans la prière. Nous savons ce qui fait la base d'une relation avec Dieu, et nous savons que nous possédons cette base, parce que, par grâce, Dieu a fait de nous son peuple, et nous avons le droit d'invoquer son nom. Nous avons le droit de venir dans sa présence. Parfois, on a des difficultés à prier, et même si on ne le dit pas de cette façon, on peut parfois penser que notre acceptation par Dieu dépend de notre performance en tant que croyant. Et si c'était vrai, on serait très découragé. On ne voudrait jamais se présenter devant Dieu. Parfois, on peut penser que parce qu'on a chuté ou parce qu'on n'a pas été aussi bon que l'on voudrait être, Dieu ne pourrait pas nous accepter. Mais Dieu nous appelle à nous présenter devant lui parce que nous avons le droit. Nous avons le droit de le faire parce que Christ a sécurisé ce droit pour nous. Nous avons cet accès libre dans la présence de Dieu parce que Christ a sécurisé cet accès pour nous et parce que Dieu veut se révéler toujours plus à nous en Jésus-Christ. Nous sommes acceptés par Dieu par les œuvres, mais par les œuvres de Jésus-Christ qu'il a accompli à notre place. Et nous les recevons par la foi. Et donc la clé vers la confiance, c'est de savoir que par la foi en Jésus-Christ, nous avons le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Et ce droit a été sécurisé par le Seigneur Jésus-Christ. Jean 1, verset 12, en parlant de Christ, qui est la parole, dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et les enfants ont le droit d'entrer dans la présence de leur père, de leurs parents, de leur dire leurs besoins, de savoir que leur père va les aider, va les secourir. En Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous avons le droit d'invoquer son nom dans la prière. Et le Seigneur Jésus-Christ a sécurisé cette réalité par l'œuvre qu'il a accompli. L'apôtre Paul écrit en Colossiens 2, 14, Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous exhorte. Il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Si David commence par nous montrer la base de sa relation, nous devrions aussi faire de même, et c'est ce que nous faisons quand nous prions au nom de Jésus. On est en train de dire à Dieu « Je fais partie du peuple qui est représenté par le Seigneur Jésus-Christ. Je lui appartiens par le don du Saint-Esprit qui m'a été accordé. Et je m'adresse maintenant à toi, parce que tu m'as donné le droit et la liberté de venir devant toi comme ton enfant, de t'apporter mes besoins dans la prière. » Et comme nous le rappelle la parole de Dieu, ce privilège est un privilège qui nous est accordé par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Mais voilà, David rappelle la base de sa relation. Deuxième grand point, dans sa prière, la prière de David est une prière où David décharge ses soucis sur Dieu. C'est ce que David dit, il a ouvert son cœur devant Dieu, il a confié ses peurs, ses frustrations, même sa fatigue entre les mains de Dieu. Verset 4, « Ô Dieu, écoute ma prière. » Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. David est assailli par des problèmes qui sont nombreux, qui sont grands, et il en parle à Dieu. Il dit au verset 5, « Des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. » Les Ziphiens auraient dû être des voisins. Ils viennent de la même tribu, la tribu de Juda, comme David. Mais ils agissent comme des étrangers. Et leur empressement à vouloir trahir David pour l'amener au roi Saül était sans pitié, c'était violents, c'est le terme qu'il utilise, des hommes violents en veulent à ma vie. Dans son état de vulnérabilité, David est entouré par des hommes qui, comme il le dit, ne portent pas leurs pensées sur Dieu. David savait ce que nous devrions savoir. On ne peut pas mettre notre confiance dans ceux qui ne craignent pas Dieu, parce qu'ils ne seront pas fidèles dans leur relation avec les autres. Toutes ces choses, bien entendu, Dieu les connaissait. David n'apporte pas de nouvelles informations à Dieu dans ce psaume. Jean Calvin nous rappelle que dans son commentaire, il n'était pas nécessaire que David informe Dieu d'un fait qui lui était déjà connu. Mais David décharge son cœur en évacuant la cause de sa peur et de son inquiétude. Il décharge son cœur, il décharge ses soucis. Parce que Dieu a toujours une oreille bienveillante pour écouter nos demandes, il est toujours prêt à recevoir les cris de nos cœurs. Au lieu d'essayer de porter nous-mêmes nos fardeaux, qui sont souvent trop grands pour nous, que ce soit nos anxiétés, nos préoccupations, nos ressentiments, des choses qui nous pèsent, au lieu de faire ce que David fait très bien ici, nous continuons trop souvent à essayer de les porter nous-mêmes, et cela se termine toujours en désastre quand nous essayons de le faire. Alors que la parole de Dieu nous exhorte à nous décharger sur Dieu. 1 Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est un de ces versets qu'il faut apprendre par cœur et retenir, se rappeler de cette vérité. Parfois, un chrétien qui est abattu, qui est tombé très bas, aura besoin de l'aide de ses frères et sœurs en Christ pour venir l'encourager à se décharger ses soucis sur Dieu et même s'approcher de Dieu dans la prière. David avait sans doute besoin de ce genre d'aide quand il était dans le désert de Ziph. Et on peut dire cela parce qu'il y a quelque chose qui nous est dit dans le récit des événements en 1 Samuel 23. Le texte nous apprend que l'ami de David, son ami avec lequel il avait fait alliance, Jonathan, n'était pas très loin. Jonathan était officier dans l'armée de son père, du roi Saül, et Jonathan a réalisé que son ami David n'était pas très loin du point de rupture. Jonathan craignait Dieu et craignait que David ne tombe s'il ne pouvait se tourner vers le Seigneur dans la prière. Et en 1 Samuel 23, verset 16, on lit que « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. » Et voici ce qu'il dit. Le texte continue en disant « Il fortifia sa confiance en Dieu. » Il fortifia sa confiance en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire d'être un ami pour un frère ou une sœur en Christ? C'est de pouvoir fortifier la confiance de l'autre en Dieu. David vacille, il chancelle. Jonathan arrive, le prend par la main et l'amène à se saisir de la main de Dieu, encore une fois. Il restaure la confiance de David dans le salut du Dieu de grâce, le salut du Dieu qui est fidèle à sa parole. Jonathan rappelle à David la parole de Dieu à son sujet, les promesses qu'il lui a données. 1 Samuel 23, verset 17, la suite du passage. Jonathan dit à David, « Ne crains pas, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Parfois, tout ce que nous pouvons faire pour un ami, c'est avec amour de lui rappeler les preuves de la parole de Dieu au sujet de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, de lui rappeler les promesses que Dieu a données à son peuple. Très souvent, on n'aura pas la capacité de résoudre le problème. On ne pourra pas toujours enlever la cause de l'affliction. Mais on peut être une bénédiction pour un frère ou une sœur en Christ quand nos paroles viennent fortifier leur confiance en Dieu. Jonathan a fortifié la confiance de David en Dieu. Et le psaume 54 est sans doute le résultat du ministère de Jonathan. David s'est déchargé sur Dieu de ses soucis. Troisième caractéristique de cette prière, David offre une prière qui prend plaisir en Dieu. On trouve au milieu de cette prière que David se réjouit en la personne de Dieu, en ce que Dieu a fait pour lui et en ce que Dieu fera. Oui, David est assailli par des dangers terribles, mais en se tournant vers Dieu dans la prière, il voit à nouveau la face de Dieu et son cœur est à nouveau rempli d'une confiance joyeuse. Verset 6, « Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. » Oui, les Ziphiens de ce monde, tous ces opportunistes intéressés, sont prêts à trahir David. Ils ne lui apportent aucune aide. Mais David réalise que c'est un très grand secours s'il peut se tourner vers le Seigneur et recevoir son aide. S'il peut recevoir l'aide dont il a besoin du Dieu qui est tout-puissant, qui est souverain, qui sait tout, qui est plein d'amour, plein de compassion pour ses enfants, qui est fidèle à sa parole pour ceux qui l'invoquent. En décrivant Dieu comme son secours, David ne voit pas seulement l'aide pratique dont il a besoin et que Dieu va lui accorder, mais il voit aussi les manières dont Dieu l'aide déjà. Parce que David ne dit pas « Dieu sera mon secours ». Il dit « Dieu est mon secours ». Dieu aide son peuple comme l'ami fidèle Jonathan l'a aidé, l'ami fidèle de David. Bien souvent, Dieu agira par le ministère d'autres croyants. C'est ce qui se passe dans la vie de l'Église. Tous les croyants devraient pouvoir dire « Dieu est notre secours ». Comment ? Parce que l'Église, la communauté, la communion fraternelle nous rappelle cette réalité. Les frères et sœurs s'entraident, fortifient la confiance des uns et des autres en Dieu. Et c'est ce qui se passe quand Dieu est à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Il utilise un pour aider l'autre. David réalise aussi que Dieu est à l'œuvre en lui par son contrôle providentiel de ses circonstances. On ne sait pas exactement si David a écrit ce psaume avant ou après l'intervention de Dieu, en venant à son secours au milieu de ses circonstances. Dieu a répondu à sa prière d'une manière remarquable. Et on lit cela en 1 Samuel 23, versets 25 à 28. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour s'échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Et voilà l'intervention de Dieu. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appelle à ce lieu, c'est là, Hamash-Lékot. David était sur le point d'être pris, mais la délivrance de Dieu vient sous la forme d'un messager qui vient avertir Saül que les Philistins ont envahi le pays. Saül vient arrêter de poursuivre David. Et David a vu, David a reconnu que Dieu était son secours. Mais le secours le plus important que Dieu a apporté à David, ce n'est pas le ministère de Jonathan, aussi important soit-il, ni le secours dans le contrôle des circonstances. Mais David voit que le secours le plus important de Dieu est la grâce de Dieu qui renouvelle sa foi et son espérance dans le Seigneur. Et voilà le secours dont nous avons réellement besoin. Oui, nous avons besoin de secours en ce qui concerne notre santé, notre sécurité, tous nos besoins légitimes. Mais nous devons réaliser avec David que le secours le plus important dont nous avons besoin est le secours pour renouveler notre foi, le secours pour nous fortifier. Parce qu'avec une foi qui est forte, nous pouvons persévérer dans toutes les circonstances. Comme je dis tout à l'heure, on ne sait pas si David a écrit ce psaume avant ou après que Dieu n'envoie le messager vers Saül pour lui dire que les Philistins avaient envahi le pays. On peut penser que c'était avant. Parce que David demande encore à Dieu de le secourir, de le délivrer de ceux qui le poursuivent. Et dans ce cas, si David prie de cette façon avant de voir la délivrance de Dieu, on voit que David met toute sa confiance en Dieu. Il regarde avec les yeux de la foi. Il sait que Dieu va pourvoir le secours dont il a besoin. Et avec cette foi, nous pouvons persévérer avec espérance au milieu des épreuves. C'est ce que le Saint-Esprit fait à travers le ministère de sa parole. Ceux qui sont au milieu de leurs épreuves, avant même de connaître le secours de Dieu, peuvent quand même appeler Dieu leur secours, parce qu'ils savent qu'il va les secourir. Ces mêmes personnes peuvent dire avec David à la fin du verset 6, « Le Seigneur est le soutien de mon âme ». On peut citer plusieurs exemples, j'en ai retenu que deux. Le premier vient du Nouveau Testament, où l'apôtre Paul a sans doute ressenti ce que David a ressenti au milieu des Éphésiens, quand l'apôtre Paul s'est tenu seul devant le trône menaçant de César. Et dans 2 Timothée chapitre 4, il dit qu'il a été abandonné, trahi. 2 Timothée 4 verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. » Mais tous m'ont abandonné. Et il rajoute qu'en réalité, il n'était pas seul. De Timothée 4, verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » Ça aurait été un encouragement pour Paul si ses amis avaient été assez courageux pour être simplement présents pour montrer leur soutien. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et malgré cela, Paul savait que Dieu était avec lui. Il a été fortifié de savoir que le Seigneur était son aide. Le deuxième exemple vient de l'histoire de l'Église, quand Martin Luther s'est tenu seul pour défendre la vérité de l'Évangile, face aux menaces de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint. Et de l'Église catholique romaine. Et il dit entre autres ceci, « Votre Majesté sérénissime et vos seigneuries m'ont demandé une réponse simple, la voici sans détour et sans artifice. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités. Et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour. Je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide. » Et Dieu a aidé Martin Luther. Il l'a fait par des tournures remarquables de sa providence dans la vie de Martin Luther, mais le secours le plus important que Luther a reçu a été la grâce pour soutenir sa foi au milieu des difficultés. Et quand on sent que notre foi se dérobe sous la pression de la crainte, de l'anxiété, nous devrions aussi invoquer le nom de Dieu comme David le fait, comme Luther l'a fait. Que Dieu me soit en aide, ou viens à mon aide, ô Dieu, ou l'Éternel, le Seigneur, et le soutien de mon âme, pas seulement pour me soulager au milieu de la détresse, mais pour fortifier mon âme avec une foi conquérante. Quatrième caractéristique de cette prière, c'est qu'elle présente des demandes à Dieu. David a commencé par présenter sa relation à Dieu. Il a ensuite déchargé ses fardeaux et ses soucis sur Dieu. Il a pris plaisir en la personne de Dieu. Et maintenant, il n'a pas peur de présenter ses besoins à Dieu dans la prière. David a besoin d'être délivré de ces personnes méchantes, incrédules, incroyantes. Il se plaint que des méchants se sont levés contre lui, cherchent à le tuer. David veut que Dieu écrase ses ennemis et le garde en sécurité. Nous aussi, nous ne devrions pas hésiter de demander à Dieu dans nos prières, qu'il nous vienne en aide. quand nous faisons face à la maladie, quand des personnes nous font du mal, quand nous recherchons un travail pour pourvoir aux besoins de la famille, ou quand nous sommes devant tout besoin légitime. Notez que David est précis. Il ne tourne pas autour du pot. Il n'est pas vague. Ses demandes sont spécifiques. Nous aussi, nous devrions être spécifiques dans nos demandes. David ne demande pas seulement à Dieu de le protéger, mais il demande aussi à Dieu de laver son nom, de l'innocenter de toute accusation mensongère. Il dit cela à la fin du verset 3. « Rends-moi justice par ta puissance. » David est persécuté par les Ziphiens qui font pourtant partie de la même tribu que lui. Et David doit se demander ce qu'ils ont entendu à son sujet pour agir de cette façon. Et cela peut nous arriver, et on peut très bien le comprendre. Pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi les gens, les collègues, nos voisins, parlent-ils de moi de telle façon? Pourquoi est-ce qu'ils agissent envers moi de telle façon? Qu'est-ce qu'ils ont entendu à mon sujet qui les pousse à agir de cette façon? David prie à Dieu, « Rends-moi justice, Seigneur. » Plusieurs critiques considèrent cela comme une déclaration de quelqu'un qui se voit juste à ses propres yeux. Mais on doit se rappeler qu'au début de toute cette de ces prières, et on l'a cité tout à l'heure, il y a le psaume 51. Et dans le psaume 51, le premier de cette série de psaumes où David crie à Dieu pour son aide, David a confessé qu'il était lui-même pécheur. Ce n'est pas quelqu'un qui se voit juste à ses propres yeux. Dans sa prière de repentance, David crie à Dieu pour sa miséricorde, pour ce salut qui n'est accordé que par grâce, par le moyen de la foi seule. David ne se voit pas comme un homme qui est juste à ses propres yeux. Il regarde uniquement la grâce de Dieu pour son salut. Cette déclaration n'est donc pas une déclaration d'un pharisien. David, d'autres critiques vont se plaindre de la soi-disant vengeance de David. Au verset 7, « Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. » Certaines personnes vont être mal à l'aise avec une telle demande. Elles vont dire, « Mais le Seigneur Jésus-Christ ne nous a-t-il pas enseigné d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux, pour nos adversaires ?» Dans son livre « Réflexions sur les psaumes », C.S. Lewis écrit ceci. « C'est donc avec une immense surprise que je remarquais pour la première fois comment les psalmistes parlent des jugements de Dieu. Ils disent par exemple « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture. » Psaume 67. « Que la campagne s'égaie, avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. » Psaume 96. C.S. Lewis continue, il dit « Le jugement semble être ici une occasion de réjouissance universelle. » La raison de cette allégresse apparaît rapidement évidente. Comme nous le faisons nous-mêmes, les Juifs de l'Ancien Testament pensaient le jugement de Dieu sur le modèle d'une cour de justice terrestre. À cette différence près que pour le chrétien, ce procès évoque une affaire criminelle où il se trouve au banc des accusés, alors que pour le Juif, il représente une procédure civile où il est lui-même le plaignant. Le premier, le chrétien, espère l'acquittement, ou plutôt le pardon. Le second escompte un triomphe retentissant, avec d'importants dommages et intérêts en sa faveur. C'est pourquoi il prie, « Réveille-toi pour me faire justice, défends ma cause. » Et là, il cite le psaume 35. Et David prie dans ce sens. Il veut voir Dieu agir pour défendre sa cause. David était quelqu'un qui n'avait aucune cour d'appel sur terre pour défendre son nom. Son nom qui avait été calomnié. Saül, le roi, était son ennemi. David n'avait aucune cour d'appel qui pourrait restaurer ce qui lui avait été enlevé. Et David prie Dieu de l'emporter dans son jugement. C'est la base de l'enseignement du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, en Romains 12, verset 19, écrit ceci, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et nous devons venir à Dieu, nous en remettre à lui, sachant que c'est lui qui vengera son peuple. Et nous pouvons même le louer pour cela, parce que sa vengeance sera juste. Nous devons apprendre à prier comme David. Rends-moi justice par ta puissance. Oui, je ne cherche pas la justification par mes œuvres. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, à son œuvre parfaite. Mais je souffre, Seigneur. J'ai besoin que tu fasses que les choses soient justes. Certains croyants sont réticents à faire des demandes comme David fait ici parce qu'ils savent que Dieu est souverain, parce qu'ils savent que Dieu sait tout, qu'il est présent partout. Et ces personnes vont dire, mais est-ce que ce n'est pas insulter Dieu que de lui demander de telles choses alors qu'il sait tout? Jésus n'a-t-il pas enseigné que le Père Céleste sait de quoi nous avons besoin avant même que nous ne le lui demandions? Pourquoi même lui demander? La réponse à ces objections, c'est que Jésus, oui, a bien enseigné cela, mais il ne l'a pas appliqué en disant qu'il n'y avait aucune raison de prier. Au contraire, il dit de ne pas prier comme les païens, qui répètent des formules, des paroles vaines. Oui, Dieu sait ce dont nous avons besoin, mais il nous invite à venir à lui, simplement, à ouvrir notre cœur, à reconnaître notre besoin, et à lui demander. Jésus nous enseigne à prier parce que le Père veut accorder de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Nous prions à Dieu parce qu'il est souverain, parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Mais Dieu veut que nous le lui demandions. Nous lui demandions ce dont nous avons besoin. D'autres vont dire que c'est inutile de prier parce que Dieu a décrété toutes choses avant même que le monde ne soit créé. La réponse à cela, c'est que Dieu nous demande de lui présenter nos besoins. Il nous commande même de prier. Il est vrai que Dieu a décrété toutes choses, tout ce qui se passe dans ce monde avant même que le monde ne soit créé. Mais il est aussi vrai que Dieu a décrété les moyens d'accomplir son dessein. Et il veut que nous prions, parce que c'est de cette façon qu'il accomplira sa volonté souveraine. Certains croyants retiennent leurs prières parce qu'ils en veulent à Dieu. Ils disent que si Dieu est souverain sur toutes choses, s'il règne, qu'il a décrété tout ce qui se passe, alors si quelque chose de mauvais m'arrive, cela veut dire que Dieu n'est pas digne de confiance. Comment répondre à cela? Il est vrai que Dieu a décrété tout ce qui se passe, nos bénédictions comme nos épreuves. Dieu a décrété pour le bien de ses enfants et pour sa gloire éternelle. Et le psaume 54 est une grande aide. David connaît Dieu. Il dit, « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. » Il connaît la nature, le caractère de Dieu. Et ce dont nous avons besoin, c'est de connaître Dieu encore mieux, de savoir qui il est. Il est saint. Cela veut dire que ses desseins, ce qu'il fait, tout cela est saint. Et nous pouvons et nous devons lui faire confiance. Dieu est bon. Et même si nous ne le comprenons pas, nous devons savoir que ses desseins, tout ce qu'il fait, tout cela est bon. Et le psaume 54 nous encourage à venir à la conclusion de David que Dieu est notre secours, qu'il est le soutien de notre âme. Même dans les épreuves les plus sombres, la souveraineté de Dieu a pour but de nous rapprocher de lui dans la prière, plutôt que de nous pousser à l'accuser pour nos épreuves. Mais comment faire confiance à Dieu quand toutes nos épreuves ont été décrétées par lui? La réponse vient en réaliser que nous, en tant que pécheurs, nous méritons nos épreuves. Et nous devons nous humilier devant Dieu. Il n'y a aucune tragédie que nous pouvons connaître ou nous pouvons dire devant Dieu, je ne l'ai pas mérité. En fait, de par notre nature pécheresse, nous méritons déjà maintenant de connaître les tourments de l'enfer. Mais si je mérite toutes les tragédies, la merveilleuse réalité de l'Évangile, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui ne méritait rien de semblable, est volontairement venu dans ce monde pour connaître une souffrance que l'on ne peut pas mesurer. La souffrance sous la colère de Dieu pour nos péchés. Et voilà la preuve de l'amour de Dieu pour nous, la croix du Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors sachant ces choses, sachant que la grâce de Dieu est la preuve de son amour, de sa sainteté, de sa sagesse, de sa bonté, nous ne devrions jamais penser que Dieu est le problème, mais plutôt réaliser que c'est le péché qui est le problème et Dieu est la solution. Un jour, on a posé la question à quelqu'un, quel est le plus grand problème pour tout ce qui arrive dans ce monde? Cette personne a répondu, le plus grand problème, c'est moi, parce que je suis pécheur. La cinquième caractéristique, la prière de David répond à la volonté de Dieu. David ne se contente pas de demander à Dieu ce dont il a besoin. Il réalise qu'il doit vivre de la manière dont Dieu veut qu'il vive. Il dit au verset 8, « Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. » David anticipe son retour au tabernacle où il peut offrir les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de reconnaissance, de remerciement à Dieu. Ces sacrifices que Dieu désire, qu'il a prescrits dans l'Ancien Testament. La gratitude de David envers Dieu est telle qu'il veut l'exprimer, sa gratitude. Mais comment le faire? David le sait, en obéissant à la parole de Dieu. Et nous aussi, quand nous prions, nous devrions aussi prendre conscience que nous devons répondre à Dieu en lui montrant notre gratitude dans la manière dont nous vivons pour lui. Et David nous montre dans le dernier verset la qualité de sa foi. Il explique pourquoi il se décide de louer Dieu. Verset 9, « Car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » Encore une fois, il est possible que David ait écrit ce verset après avoir entendu que Saül avait reçu le messager concernant les Philistins, mais c'est plus probable que David ait aperçu cela par la foi, avant d'entendre que le messager ne soit venu auprès de Saül. Mais de toute façon, dans les deux cas, David est toujours assailli par de grands problèmes. Il a été fortifié par la prière, par ce temps passé dans la présence de Dieu. Et il se réjouit dans la certitude du salut. Et il renouvelle son attachement au Seigneur. Et les croyants de tous âges, encore aujourd'hui, peuvent entrer dans l'esprit de cette prière de David, même en sachant que Dieu va ou ne va pas nous délivrer de nos épreuves dans ce monde. Des difficultés au travail peuvent nous amener à perdre notre emploi. Un gouvernement injuste peut emprisonner ceux qui annoncent l'Évangile, et ça arrive déjà aujourd'hui dans certaines parties du monde. La maladie qui nous touche peut conduire à notre mort. Mais à la lumière du salut que le Seigneur Jésus-Christ a accompli, chaque croyant trouvera que l'affirmation de David au verset 6 est toujours vraie. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Comment Dieu est-il notre secours? On l'a déjà dit, il nous donne la grâce de la foi, il renouvelle cette foi. Il sécurise notre place dans la gloire éternelle. Dieu nous a donné cette aide, ce secours incalculable, en envoyant son Fils pour enlever la culpabilité de notre péché sur la croix. Alors, quoi que nous allons affronter, quoi qu'il nous arrive, sous le contrôle souverain et sage de Dieu, nous pouvons nous réjouir avec une confiance parfaite que, quoi qu'il arrive, notre âme éternelle est en sécurité entre les mains de notre Dieu merveilleux. Mes dernières questions pour terminer. Est-ce que ce psaume est messianique? Il n'y a aucune citation de ce psaume dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucune prophétie qui aurait vu son accomplissement dans la vie et dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, quand on lit cette prière de David, on réalise que cette prière dépeint de façon précise toute l'expérience de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie sur cette terre de péché, en particulier quand il doit affronter la souffrance terrible de la croix. Cette prière de David suit les appels de notre Seigneur Jésus-Christ quand il crie vers son Père. On trouve les paroles, verset 3, « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. » Verset 5, « Car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. » Verset 6, « Voici, Dieu est mon secours. » Verset 9, « Car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. » Ces paroles nous rappellent le Seigneur Jésus-Christ. Intéressant de noter que l'Église anglicane a choisi la lecture de ce psaume pour le Vendredi Saint. Ce psaume 54 est une bonne lecture pour tout croyant qui porte la croix de Christ dans ce monde. Martin Luther s'est focalisé sur le premier verset de ce psaume et dans la deuxième partie de ce verset où nous lisons « Rends-moi justice par ta puissance ». Luther a vu dans l'expression « ta puissance » une référence à l'Évangile. Quelle est la puissance de Dieu? Quelle est la puissance à laquelle nous voulons regarder? Est-ce que c'est une puissance de ce monde? Est-ce que c'est un déluge d'argent, de richesses? Est-ce que c'est un médicament, un vaccin? Est-ce que c'est une intervention du gouvernement? Est-ce que c'est cela, la puissance qui nous défendra, qui nous justifiera, qui nous accordera à la fin tout ce dont nous avons besoin? Martin Luther dit non. Alors, quelle est la puissance de Dieu par laquelle il nous sauve? Paul nous donne la réponse. En Romains chapitre 1, versets 16 et 17, « Je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est la puissance, la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra ». Par la foi. Dans notre faiblesse au milieu des déserts de Ziph que Dieu nous appelle à traverser, le Seigneur Jésus désire se révéler comme le secours de son peuple qui est dans le besoin. Parfois, on se demande pourquoi on souffre. La réponse est que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par mes souffrances et que moi, je le connaisse encore davantage. Qu'au travers de mes souffrances, mes yeux soient portés vers cette gloire éternelle qui attend chacun des enfants de Dieu. De réaliser aussi que même si notre corps doit être détruit, notre âme est en sécurité entre les mains de Dieu, celui qui soutient notre âme. Dans ce monde, nous allons suivre le Seigneur Jésus-Christ en portant notre croix. Nous allons peut-être connaître toutes sortes de souffrances. Mais rappelons-nous que nous avons un Dieu qui soutient notre âme et qui répond à nos prières. Rappelons-nous aussi que le Dieu le Père a entendu le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a aidé, il l'a secouru, il l'a délivré de la mort. Le tombeau est vide maintenant. Nous pouvons avoir cette certitude que Dieu entendra nos prières, qu'il nous aidera, qu'il viendra à notre secours et qu'il nous délivrera. Sachant cela, nous pourrons vivre maintenant dans la confiance de la foi en disant à Dieu avec David, « Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. » Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.